514-277-6409.
Son 2-3 FM, Midi Info.
Mardi 22 avril 2025, vous écoutez 102.3 FM. Auditeurs et auditrices, bonjour, bienvenue à ce bulletin de nouvelles. Au micro, Arlette Josué, en compagnie de ma collègue Valérie Montreuil. Voici le grand titre de cette édition.
Mesdames et messieurs, bonjour. Le Vatican a annoncé lundi la mort du pape François à l'âge de 88 ans. Le souverain pontife a succombé à un accident vasculaire cérébral qui a provoqué un coma et une défaillance cardio-circulatoire irréversible, selon son certificat de décès. Nima Machouf table sur le bilan négatif de son concurrent du Parti libéral du Canada pour rafler la circonscription de Laurier-Sainte-Marie à Montréal. Ruba Gazal accuse François Legault de se faire l'instrument d'acteurs plus hostile encore sur notre modèle d'intégration et d'inclusion, en raison de sa rhétorique où il met tout sur le dos des immigrants. Les insoumis critiquent vivement la diplomatie d'Emmanuel Macron, dénonçant un aveuglement et un paternalisme néocolonial dans ses récentes déclarations. Mesdames et messieurs, nous vous avons aussi préparé l'actualité internationale, mais avant le développement des titres, voici l'éditorial de Radio Centre-Ville, présenté par le directeur général, M. Wanex Lalanne Zéphir.
Quelques jours après les Pâques, Radio Centre-Ville invite tout un chacun à une analyse en profondeur pour pouvoir apporter son grain de sel ou sa moindre contribution à un nouveau paradigme. Cette analyse, génératrice de diverses actions légales, doit permettre à tout un chacun d'avancer avec courage, dignité, honnêteté et détermination dans un monde traversé par des crises, des injustices de toutes sortes. Il n'est pas normal que le monde vive dans ce tumulte global. Dans tous les continents du globe terrestre, l'injustice, l'arbitraire, l'exploitation, la criminalité, le racisme, les préjugés font rage. Partout au monde, une minorité dirige ou accapare la quasi-totalité des richesses terrestres. Il est temps que les choses changent. Il revient à chacun de nous constituer en force de vie, en bâtisseur de paix pour lutter contre la guerre, en un vrai porteur d'un espoir collectif. Oui, il ne faut pas seulement travailler pour soi, pour son bien-être personnel ou individuel. Il faut viser grand, et ceci pour le bien-être collectif. Si l'impact coïncide avec le printemps, cette saison qui symbolise la renaissance, la résistance de la lumière face à l'obscurité, la victoire de la vie sur la mort, il faut le démontrer dans nos actes, dans nos pratiques quotidiennes. Or, la réalité du monde nous prouve le contraire. Combien de peuples qui ont vécu cette semaine pascale sous la tyrannie des bourreaux? Combien d'habitants qui n'arrivaient pas à manger? Combien d'individus qui vivent dans des conditions infrahumaines? Pourtant, ils sont des croyants. Ils sont victimes à cause de leur foi chrétienne. On tue au nom de Dieu. Quel paradoxe. On prône la paix, mais on fabrique des armes sous prétexte que celui qui veut la paix prépare la guerre. Quel mensonge. Les armes fabriquées doivent être utilisées. Donc, on les vend. Ainsi, on engendre des guerres. On les fabrique comme on fabrique des armes. Malheureusement, la prolifération de ces armes va engendrer des conséquences presque incontrôlables. Par exemple, Haïti ne fabrique pas des armes. Pourtant, les gangs sont lourdement armés et ils rendent la vie impossible à de paisibles citoyens. Ironie du sort, les pays fabricants de ces armes font semblant de vouloir participer à la résolution de ce problème. Quelle hypocrisie! Cette hypocrisie est aussi ailleurs. On la trouve dans certaines administrations occidentales. Par exemple, celle de Trump. En effet, cette administration décide de traquer les immigrants, illégaux ou légaux. C'est désolant. Et cette désolation pousse les sceptiques à fuir les États-Unis pour se réfugier au Canada. Et c'est ce qui a déclenché cette fameuse phrase « Toutes les misères du monde ». Et en guise de réponse, l'écrivain, l'académicien d'origine haïtienne, Daniel Laferrière, a déclaré « Au lieu de parler de misère du monde, on devrait mentionner les richesses du monde ». Et ces deux phrases ont déclenché de nombreuses réactions. Radio Centre-Ville pense et le dit tout haut. Les immigrants ne sont ni misère ni richesse. Ils contribuent à l'enrichissement d'une société. Entre les expressions « contribuer à » et « être la misère du monde » ou « la richesse du monde », la différence est flagrante. Mettons bas les couteaux et les expressions. Travaillons pour une société inclusive. Telle est la position de Radio Centre-Ville.
Le Vatican a annoncé lundi la mort du pape François à l'âge de 88 ans. Le souverain pontife a succombé à un accident vasculaire cérébral qui a provoqué un coma et une défaillance cardio-circulatoire irréversible selon son certificat de décès. Le décès a été constaté par enregistrement électrocardiothérapeutique, indique le document signé par le directeur du département de la santé et de l'hygiène du Vatican, le professeur Andrea Arcangeli. Les dirigeants du monde entier ont exprimé leur sympathie en commençant par le premier ministre du Québec, François Legault. Dans son message envoyé sur X, M. Legault rend hommage au défunt en ces mots. Le pape François aura marqué les esprits par son humilité, son ouverture et sa compassion pour les plus vulnérables. J'ai eu l'honneur de l'accueillir lors de sa visite à Québec en juillet 2022. Un homme juste et qui a fait preuve d'une grande écoute. J'offre toutes mes condoléances aux chrétiens du Québec, mais aussi à ceux du monde entier. Fin de citation. Le premier ministre du Canada, Mark Carney, a souligné l'engagement inébranlable de François à placer la dignité humaine au centre de nos systèmes économiques et politiques. Quant à Donald Trump, le président américain a ordonné lundi que les drapeaux américains soient mis en berne sur les édifices publics de tout le pays en hommage au pape François, qu'il a qualifié d'homme bon, qu'il travaillait dur, il aimait le monde. C'est un honneur de faire cela, a encore dit le président américain dans une courte allocution prononcée pendant la chasse aux œufs organisée chaque année par la Maison Blanche à l'occasion de la fête chrétienne de Pâques. Pour le pape François, Donald Trump n'était pas chrétien. Le défunt pape a critiqué durement et de manière répétée la politique anti-immigrant du président américain, lequel se présente comme un défenseur de la foi, voire un élu de Dieu. Usant de son franc-parler notoire, le souverain pontife avait fait en février 2016 une incursion remarquée dans la campagne présidentielle, disant du candidat Trump une personne qui veut construire des murs et non des ponts, n'est pas chrétienne. Nima Machouf table sur le bilan négatif de son concurrent du Parti libéral du Canada pour rafler la circonscription de Laurier-Sainte-Marie à Montréal. En entrevue à Radio Centre-Ville, l'épidémiologiste et candidate du nouveau Parti démocrate qui se lance pour la troisième fois dans la course, accuse Stephen Guilbeault d'avoir trahi les engagements qu'il avait pris envers les électeurs, notamment en matière d'environnement et de justice sociale. Nima Machouf répondait aux questions de notre collègue Ferhat Saïdj.
Dernière fois en 2021, quand j'étais candidate, les gens, ce qu'on entendait aux portes, c'était que les gens étaient très inquiets. Ils voulaient pas voter libéral, mais finalement ils ont voté pour Stephen Guilbeault pour qu'il soit à l'environnement. Dans le fond, c'est pour l'environnement que les gens ont voté et non pas du tout pour les libéraux. Une partie des gens, en fait, ce qui a fait que Stephen Guilbeault a gagné. Et pourtant j'ai perdu par uniquement 5% des voix. Alors on était très proches, mais les gens voulaient Stephen Guilbeault à l'environnement, voulaient y donner une chance pour voir si l'environnementaliste qui a fait ses preuves dans l'environnement, est-ce que une fois au pouvoir, il pourrait répondre favorablement et protéger l'environnement. Mais maintenant, 4 ans plus tard, où il a été ministre de l'environnement et il aurait pu changer des choses, les gens sont super déçus par son inaction, par les choses auxquelles les gens s'attendaient qu'il fasse et qu'il n'a pas fait. Comme par exemple, s'opposer à l'importation des déchets dangereux au Québec, où il aurait pu signé les amendements nécessaires pour qu'on force l'industrie à être transparent et à montrer à la population.
De Laurier-Sainte-Marie, comment comptez-vous défendre cette cause? Comment comptez-vous changer justement la donne actuellement, du moins par rapport à ce que le Canada peut apporter?
Le Canada peut apporter énormément. Et moi, si je vais être au Parlement, je vais m'ajouter à mes autres, aux autres députés du NPD qui ont essayé beaucoup à l'automne passé de faire adopter, de faire reconnaître la Palestine par le gouvernement canadien, de mettre fin ou forcer d'adopter un principe pour forcer Israël à mettre fin à l'occupation, d'émettre des sanctions à Israël.
Mark Carney, déjà, il a lancé déjà le débat, c'est qu'il a déclaré que ce n'est pas encore le moment pour aller vers une reconnaissance de l'État palestinien.
C'est faux! Ils attendent quoi pour le faire? Tous les gens... Tout le monde le sait que Israël, l'occupation de la Palestine est illégale. Les traités internationaux le disent. Les cours de justice internationale le disent. Notre ministre des Affaires extérieures, Madame Mélanie Joly, est une juriste. Moi, je l'ai rencontrée du retour de la flottille qui devait aller à Gaza. Je l'ai rencontrée et je lui ai dit, vous êtes juriste et vous savez qu'Israël est en grave violation des lois et des lois internationales, des conventions internationales qu'on s'est données collectivement pour vivre en paix, pourquoi vous n'agissez pas? Alors, elle sait très bien que c'est vrai et elle assumait ça. Elle dit, je sais, mais on n'y peut rien. Alors, c'est pas vrai, c'est juste par lâcheté que le gouvernement libéral n'a rien fait.
Un dernier mot, certainement, aux électeurs de la circonscription de Laurier-Sainte-Marie. Qu'est-ce que vous avez à leur dire?
Je vous demande sincèrement de me faire l'honneur de voter pour moi et de m'élire comme votre député. Je serai là pour vous protéger, pour protéger vos emplois, pour protéger vos logements, pour aller chercher un programme complet pour pouvoir lutter contre l'itinérance, qui est un des autres dossiers très chauds dans notre circonscription. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Il faut avoir de l'espoir et laisser son imagination fleurir. L'accès au fleuve est une autre chose qu'on peut aller chercher. On est capable de vivre dans de meilleures conditions. Laissez-vous pas guider par la peur. De toute façon, Carney semble aller au pouvoir. Vous n'avez pas besoin d'élire un député libéral de plus ici. Il servira à rien.
Ruba Gazal accuse François Legault de se faire l'instrument d'acteurs plus hostiles encore sur notre modèle d'intégration et d'inclusion en raison de sa rhétorique où il met tout sur le dos des immigrants. Alors qu'elle était en meeting avec le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon. La semaine dernière, Ruba Gazal a dénoncé la montée de la droite et de l'extrême droite dans le monde. La porte-parole de Québec solidaire a vertement critiqué François Legault, l'accusant de se faire l'instrument d'acteurs plus hostiles encore sur notre modèle d'intégration et d'inclusion en raison de sa rhétorique où il met tout sur le dos des immigrants. En entrevue à TVA Nouvelle, Mme Gazal a indiqué que les solidaires et les insoumis partage plusieurs valeurs en tant que mouvement de gauche. Les insoumis critiquent vivement la diplomatie d'Emmanuel Macron, dénonçant un aveuglement et un paternalisme néocolonial dans ses récentes déclarations. Jean-Luc Mélenchon a qualifié les propos du président français sur l'ingratitude des dirigeants français vis-à-vis de l'engagement militaire français au Sahel de diplomatiquement irresponsable et de désinvolture aggravant les relations internationales de la France. La France insoumise appelle à une refonte des relations avec les pays africains, prônant une diplomatie fondée sur le respect de la souveraineté et des droits humains, loin des logiques d'ingérence militaire et de néocolonialisme. De passage à Montréal la semaine dernière, le député de la France insoumise Aurélien Taché a accordé une entrevue à Radio Centre-Ville au cours de laquelle il a répondu à une question sur les relations entre la France et le Rwanda. Il était au micro de notre collègue Ismaël Bonigaba.
Au Congo, c'est la guerre, vous savez, on ne parle pas même de guerre, on parle de génocide aussi.
Oui.
La communauté internationale a condamné le Rwanda dans cette affaire impliquée. Mais la France, on sait que la France est en bonne coopération avec le Rwanda.
Surtout des missions que le Rwanda effectue au nom de la France.
Effectivement, des missions militaires.
Il y a en Mozambique, il y a aussi, on pense aussi que le Rwanda exploite le Congo à l'avantage de certaines puissances de l'Europe.
Oui, on est très clair, nous, là-dessus. Jean-Luc Mélenchon l'a dit hier au meeting de Québec solidaire. Il m'a fait l'amitié de citer mes propositions en matière de francophonie parce que je suis le rapporteur de cette question au sein de l'Assemblée nationale française. Est-ce que vous croyez que c'est normal que l'Organisation internationale de la francophonie soit dirigée par l'ancienne ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame ? Louise Mushikiwabo est rwandaise, elle est l'ancienne ministre des Affaires étrangères de Paul Kagame. Elle n'a pas dit un mot sur l'invasion du Congo par le Rwanda. Nous, on le dénonce avec force à la France insoumise. Nous croyons que la langue française peut être la langue de la paix. Nous croyons que cette langue commune peut être différente de l'anglais, par exemple, qui n'est pas une mauvaise langue, il ne s'agit pas de combattre l'anglais, mais qui a souvent été celle de l'impérialisme, du capitalisme le plus agressif. Nous pensons cela. Nous pensons aussi qu'il faut arrêter tout accord de défense avec le Rwanda, entre la France et le Rwanda. Nous pensons qu'il faut se tenir aux côtés du peuple congolais et nous essayons chaque jour de lui montrer notre solidarité. Moi, j'ai été encore, il y a 4 ou 5 jours, militer et avec des activistes pour dénoncer finalement le partenariat entre le Paris Saint-Germain, le club de football, et le Rwanda. Par exemple, ça, c'est quelque chose qui est une honte. Il y a tout un tas de domaines comme ça où on pourrait finalement avancer. La prochaine conférence de la francophonie devrait se tenir à Kigali, au Rwanda. Ça aussi, c'est absolument honteux, nous le refusons. Nous, insoumis, avons toujours dit, nous nous tenons aux côtés du peuple congolais, plus grand pays francophone au monde, et nous refusons que le Rwanda, qui a effectivement lui aussi connu des choses absolument tragiques dans le passé, qui a connu un génocide, personne ne remet ça en cause, puisse finalement se comporter comme un agresseur et annexer le Congo aujourd'hui, alors qu'on sait parfaitement que ce qui motive Kagame, c'est d'aller prendre les minerais. Et il faut aussi que l'Union européenne arrête d'acheter des minerais qui viennent du Rwanda. Il n'y a pas de minerais au Rwanda. Vous regardez une carte, il n'y a pas de minerais au Rwanda, ils viennent tous du Congo. Comment le Rwanda peut vendre des minerais ? C'est parce qu'il les vole au Congo. On doit refuser de les acheter.
Mesdames et messieurs, nous poursuivons notre radio-journal avec l'actualité internationale présentée par Valérie Montreuil.
En Haïti, la primature a foi dans l'avenir alors que les conditions sont alarmantes dans les camps de personnes déplacées. Se voulant rassurant, un message de la primature adressé aux Haïtiens est lu en ces mots. En cette période pascale, symbole de renouveau et de résilience, le gouvernement réaffirme sa foi en un avenir meilleur pour Haïti. Malgré les épreuves, notre nation renaîtra à condition de faire front ensemble dans l'unité et la solidarité. Joyeuse Pâques à toutes et à tous. Fin de citation. Pendant ce temps, les conditions alarmantes dans les camps de déplacés, dues au manque de toilettes, de douches et d'eau potable, exposent les familles à des maladies comme le choléra. ONU Migration, avec le soutien de UNCERF, distribue des kits de nettoyage, installe des citernes d'eau, réhabilite les infrastructures sanitaires et forme des comités de sites à l'hygiène pour rétablir rapidement l'accès aux services essentiels et protéger la santé publique. Alors que le monde célébrait Pâques, commémorant la résurrection de Jésus-Christ, les chrétiens de Goma, en République démocratique du Congo, vivaient un moment particulier. La ville est occupée par les rebelles du M23 et leurs alliés, mais la population s'accroche à l'espoir d'une paix céleste. Voici Africa News.
Cette année, les chrétiens de Goma célèbrent la fête de Pâques sous très haute tension. Dans la capitale provinciale du Nord Kivu, tenus par les rebelles et leurs alliés, les fidèles implorent les saints pour la paix.
Alors le vœu le plus ardent est que nous ayons la paix totale, parce que ça fait longtemps que nous vivons dans la guerre. C'est le moment, à travers les messages de l'évêque, que nous pensons qu'il y aura la paix.
À la paroisse Saint-Esprit de Goma, les fidèles se sont rassemblés malgré la tension. Dans la prière en cœur, ces Congolais s'accrochent à l'espoir d'une paix céleste. Nous voulons tous la paix, oui. Nous devons tous nous unir, résoudre tous les problèmes, pour voir une cohésion et un même langage. Goma, ville militarisée, aux alertes incessantes, la célébration de Pâques prend une dimension particulière. La fête devient un acte de résilience, un refus de céder à la fatalité. Devant les responsables du M23, l'évêque de Goma a lancé un vibrant appel pour le retour de la paix.
De Jésus-Christ, annoncé par...
C'est un jour que nous puissions, nous tous, nous soyons des hommes et des femmes de paix, que nous puissions laisser de côté tout ce qui nous divise, que nous puissions travailler pour la paix et pas travailler pour le mal, pour la mort, non, pour l'insécurité, non. Travaillons pour la paix, pour la sécurité, pour la fraternité et pour l'amour.
Alors que la guerre se prolonge et que les négociations piétinent, les chrétiens de Goma montrent une autre forme de résistance, celle du cœur, de la foi et de la persévérance. Une lueur d'espoir entretenue dans la prière face à l'adversité. Goma refuse de céder à la violence parce qu'ici, le désir de paix est profond.
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a dit lundi vouloir une réponse claire de la Russie à sa proposition concernant une nouvelle trêve dans les attaques de drones et de missiles contre les infrastructures civiles. L'Ukraine maintient sa position de ne pas frapper les infrastructures civiles et nous attendons une réponse claire de Moscou. Nous sommes prêts à toute discussion sur la manière d'y parvenir, a-t-il déclaré dans son allocution quotidienne. Plus tôt dans la journée, le chef de l'État russe Vladimir Poutine avait affirmé que son pays allait analyser l'offre de son homologue ukrainien.
Depuis l'entrée en vigueur de la trêve, il y a 27 heures, Russes et Ukrainiens n'ont eu de cesse de s'accuser mutuellement de ne pas la respecter. Des unités ukrainiennes ont tenté durant la nuit d'attaquer les positions russes. Une augmentation des bombardements russes et de l'utilisation de drones kamikazes a été observée depuis 10 heures ce matin. C'est hier à 17h heure française que le cessez-le-feu annoncé par Vladimir Poutine commence. Pourtant, 3 heures après, les sirènes anti-aériennes de Kiev retentissent. Et la guerre de communication débute. L'Ukraine affirme que les Russes les auraient bombardés à 448 reprises. En retour, le Kremlin accuse les Ukrainiens de 444 frappes d'artillerie lourde dans la nuit. Mais aucune image de ces attaques n'ont été diffusées. Dans la journée sur le terrain, les deux camps reconnaissent toutefois une accalmie dans certaines zones, comme sur cette vidéo tournée par un militaire russe à Bakhmout, dans l'est ukrainien.
Je me suis réveillé ce matin dans le silence, la sérénité. Cette ville n'a sans doute jamais été aussi calme depuis 2022.
Cet après-midi à Odessa, dans le sud, nos envoyés spéciaux nous confient l'inquiétude des Ukrainiens à quelques heures de la fin de la trêve.
Ce que nous ont dit les militaires qu'on a pu joindre sur les différents fronts, c'est que les Russes utilisent cette trêve pour évacuer leurs blessés et pour réapprovisionner leurs troupes en munitions et en nourriture.
Le cessez-le-feu n'était-il alors qu'un coup de communication ?
Les deux ont été habiles, opportunistes, le président Poutine en proposant cette trêve et habilement le président Zelensky en proposant « Oui, très bien, je vous prends au jeu, mais prolongeons pour 30 jours. » Malheureusement, j'ai peur que les hostilités reprennent dès demain.
Jusqu'ici, ni les Européens ni les Américains n'ont encore réagi à cette tentative de cesser le feu.
Aux États-Unis, des milliers de personnes inquiètes pour l'état de droit manifestent contre l'administration Trump. Depuis New York ou Washington, à l'est jusqu'à San Francisco, à l'ouest, en passant par le Texas au sud, les manifestants ont également dénoncé la politique anti-immigration du président américain. Les chiffres réels sont difficiles à obtenir, de nombreux services de police se refusant à fournir des estimations. Mais la deuxième mobilisation en deux semaines contre l'administration Trump a réuni des milliers de personnes samedi 19 avril dans les rues de plusieurs villes des États-Unis, dénonçant ce qu'elles considèrent comme des menaces aux idéaux démocratiques du pays. Pas de roi en Amérique ou « Résistons à la tyrannie », pouvait-on lire sur des pancartes à la manifestation organisée à New York. À côté d'images du président américain, Donald Trump affublé d'une moustache à la Hitler. « La démocratie court un grand danger », a déclaré à l'agence France-Presse Cathy Valley, 73 ans, une descendante de survivants de la Shoah, qui affirme que ce que lui ont raconté ses parents à propos de la montée du nazisme dans les années 1930 est en train de se passer ici. La différence avec les autres fascistes, c'est que Trump est trop bête pour être efficace et que son équipe est divisée, se rassurait-elle.
La colère résonne dans les rues de sa ville natale. Donald Trump et son administration, au cœur de la gronde de ses New-Yorkais, qui le compare à un dictateur.
La principale préoccupation, c'est que nous perdions notre démocratie. L'administration Trump veut instaurer un État autoritaire aux États-Unis où l'exécutif contrôle les trois pouvoirs. Il est déjà bien avancé dans ce sens.
Parmi les nombreuses critiques faites au président américain, sa politique à l'encontre des étrangers, dont beaucoup ont été expulsés sans procédure légale, Donald Trump a également suspendu le financement de certaines universités à cause de leurs programmes de diversité et d'inclusion.
Les membres de ma famille sont originaires de différents pays. Ils ont travaillé très dur pour venir ici. Mes étudiants payent beaucoup d'argent et travaillent dur aussi et ne devraient pas se sentir en danger sur le campus.
À Chicago, certains accusent l'administration américaine, en particulier Elon Musk, de vouloir creuser les inégalités.
Nous avons cet oligarque qui démantèle tout ce qui est au service du peuple dans notre société. Il tente de détourner cela pour une minorité de puissants et de riches dans un système truqué qui leur profite à eux et non à nous.
De Chicago à New York, en passant par le très conservateur État du Texas, les manifestants anti-Trump se sont mobilisés par milliers à travers tout le pays. Il s'agit de la deuxième journée de manifestation en deux semaines.
Mesdames et messieurs, c'est ici que nous concluons ce Radio Journal. L'équipe de nouvelles vous remercie encore une fois de votre fidélité. La coordination a été assurée par Ismaël Bonigaba et la réalisation par Jean-Claude Tranquille. À la présentation, c'était Arlet Josué et Valérie Montreuil. Nous vous souhaitons une agréable journée.
Ensemble, ensemble pour le 102.3 FM. Nous sommes Radio Centre-Ville.
Rassemblé! Ou qu'il y a douleur dans tout corps, sans santé dormir. Ou senti ou stressé, sans santé dormir. Et douleur dans zo ak nan seti, douleur dans l'estomac nan genou. Ou qu'il y a problème gaz constipation, besoin massage ou qu'il y a ballon. Solution par l'autre que sans santé Dormeus là. Digitacol dans 5872 boulevard Léger Suite 18 à Montréal Nord. Pour plus d'informations, relez dans 514-329-0647. Frem, même problème, bonne nous gérer tout.
L'efficacité, la courtoisie, la ponctualité sont devenues les notes d'excellence de Maître Suzy Jean. Alors sachez faire d'elle votre meilleur atout. Pour vos testaments, célébrations de mariage, achats de propriété, Maître Suzy Jean Notaire. Maître Suzy Jean Notaire vous attend dans le chic de son bureau au 4570 rue Jean Talon Est, suite 202. Si on ne parle avec l'autre, n'a pas qu'on est qui s'appuie bon pour nous. C'est pour ça, Maître Suzy Jean là, oui. Maître Suzy Jean Notaire, à le rencontrer avec elle, dans 4570 rue Jean Talon Est, bureau 202. Téléphone 514-318-1854. 514-318-1854. Maître Suzy Jean, notaire, le vôtre.
Dans ce monde un peu fou, où on ne sait plus à qui ou à quoi faire confiance, je veux que tu saches que ton cœur est fiable et que les bonnes personnes existent encore. Entre ciel et terre se voudra un havre de paix, une bulle d'amour où nous échangerons sur la vie, ses défis, ses joies, ses peines, ses contradictions, sans filtre et sans jugement. Entre ciel et terre, un monde où la foi, l'espoir et l'amour seront rois et maîtres de doux moments créés par nos conversations presque nocturnes. Je suis Claudine Hilaire, Claude pour les intimes, pour toi, dès le mercredi 2 octobre à 23h, sur les ondes de Radio Centre-Ville au 102.3 FM. entre ciel et terre, au plaisir de bâtir avec toi un monde nouveau, une heure à la fois.
Au centre de ma ville se trouve une station de radio, au centre de laquelle diverses équipes linguistiques travaillent jour et nuit. Au centre de leurs soucis, les intérêts des moins nantis. Le 5FM se préoccupe de la situation des gens d'ici. Promouvoir la réalité des minorités, telle est la priorité de Radio. Nostalgie.